Vous écoutez
RMC.
4h57 et on est en direct, mais oui, comme chaque matin, pour vous accompagner, vous les lève-tôt, les couche-tard, les courageux de la nuit, du matin, peut-être déjà dans la voiture, peut-être déjà au boulot même. Racontez-nous, tiens, ce que vous faites réveiller de si bonne heure. On vous lit sur Direct Studio, sur l'appli RMC. Je vois Géraldine qui est déjà en train de scroller les messages, comme disent les jeunes. Salut Géraldine.
Salut Charles, bonjour à tous. Tiens, bonjour à Anne, bonjour à Aïcha, bonjour Richard. Voilà, ils sont déjà tous là sur Direct Studio.
Ben voilà, les fidèles du matin sont déjà réveillés. N'hésitez pas. Vous venez vous installer comme vous voulez autour de la table, vous le savez, sur RMC, il suffit de composer le 32-16. Géraldine, on va revenir sur la météo dans quelques minutes parce que c'est, voilà, ça a été
agité
hier. Quel temps pour aujourd'hui, tu nous dis tout dans une minute. La une de l'actualité, c'est aussi évidemment toujours cette campagne des législatives. Hein. C'est tendu, hein, cette campagne en ce moment. Tiens, racontez-nous aussi, est-ce que vous en... comment ça se passe pour vous au boulot en famille, est-ce qu'on en parle de cette campagne? Est-ce que ça tend les discussions, la politique? Je suis sûr que vous en parlez autour de vous. Racontez-nous ce qui se dit, n'hésitez pas. Hein, là aussi, le 32-16 est ouvert. Et puis tiens, cette info qu'RMC vous a révélée hier après-midi, un nouvel appel au vote, celui de la CGT hier. La CGT qui appelle officiellement à voter pour le nouveau Front Populaire.
Alors c'est vrai que traditionnellement, le syndicat se contente d'appeler à faire barrage contre l'extrême droite, mais ne donne pas de consigne de vote précise. Sauf que cette fois, elle va plus loin, contrairement à FO ou la CFDT.
Oui, la CGT qui s'engage en soutien, alors que les autres syndicats restent un peu plus neutres. Est-ce que la CGT va trop loin avec cet appel au vote? Est-ce que, plus globalement d'ailleurs, est-ce que vous comprenez tous ces appels au vote? Hein, il y a eu les... Alors là, c'est un syndicat qui s'engage dans cette campagne. On a entendu beaucoup d'artistes, de sportifs ces derniers jours. Je pense aussi au patronat. On a vu l'AFEP, l'association des grandes entreprises, hein, les 100 plus grandes entreprises françaises, qui s'inquiètent des conséquences pour l'économie française d'un gouvernement Nouveau Front Populaire ou d'un gouvernement RN. Racontez-nous, est-ce que vous êtes sensible à ces appels au vote? Est-ce que ça peut jouer sur votre choix le 30 juin et le 7 juillet prochain? Est-ce qu'il faut comme ça que voilà, c'est les corps intermédiaires, comme on dit, que les représentants, les responsables de syndicats, les patrons s'engagent dans la campagne, en tout cas donnent des consignes de vote? Est-ce que c'est leur rôle? Est-ce que vous les attendez sur ce terrain politique? N'hésitez pas, le 32-16 est ouvert. On vous attend évidemment ce matin pour en débattre.
Et puis on a un riche programme aujourd'hui dans Charles Matin, dans ma solution conso. Tiens, je vais vous aider à changer de fournisseur d'électricité pour économiser de l'argent. Il y aura aussi de la tech, du sport dans la bande de Charles à 5h40. Tiens, on va parler gros sous. On connaît la prime que vont toucher les Bleus en cas de victoire à l'Euro.
Ah, on vous dévoile tout à l'heure dans la story sport. Bon réveil à tous, vous êtes bien sur RMC, il est 5h.
RMC, Charles Matin.
Et à 5h, toute l'info, toute l'actu, c'est sur RMC et c'est votre journal présenté par Thibaut Texer.
Bonjour Charles, bonjour à tous. Le choc en Eure-et-Loir après un accident de la route qui a tué 7 personnes hier soir près de Chartres. 5 jeunes de 17 à 19 ans ainsi qu'un couple d'octogénaires. Interpellé sur le chaos à venir, Emmanuel Macron assume et justifie la dissolution de l'Assemblée nationale. Rien n'est au-dessus de la souveraineté populaire, dit le chef de l'État. Et puis Didier Deschamps donne des nouvelles de Kylian Mbappé qui s'est fracturé le nez lundi soir. Le capitaine des Bleus incertain pour affronter les Pays-Bas vendredi.
L'émotion très vive ce matin en Eure-et-Loir.
7 personnes ont perdu la vie après un accident de la route survenu en début de soirée sur une départementale à Bayeux-le-Pin près de Chartres. À l'origine du drame, la vitesse de l'un des véhicules selon les premiers éléments de l'enquête. À son bord, 5 jeunes de 17 à 19 ans morts dans l'incendie de leur voiture. Un couple d'octogénaires est également décédé sur le coup. Sur place, c'est le choc pour RMC. Caroline Philippe a rencontré le maire de la commune très ému.
Anéanti après le drame survenu sur sa commune.
C'est horrible.
Martial Lochon, édile depuis 23 ans.
On n'est pas maire pour gérer ces événements-là, même si ça fait partie. On est humble, on est impuissant, on est effondré.
L'émotion le rattrape.
On a eu à gérer les familles, où là c'est compliqué. On essaie de faire en sorte que d'apporter notre pierre à l'édifice, mais bon, les pompiers sont professionnels, les gendarmes sont professionnels. Mais derrière tout ça, c'est de l'humain. Et il y a 7 familles anéanties. Tout sera jamais plus pareil qu'avant.
Toutes les victimes, les 7, sont originaires des alentours de plusieurs villages différents à 10-15 kilomètres à la ronde.
J'ai un jeune de 18 ans de ma commune qui est décédé, dont on vient de voir les parents. Hein. Je les connaissais de vue, pas personnellement. C'est des gens discrets qui vivaient au cœur du village, qui avaient qu'un seul enfant. Et aujourd'hui, c'est l'anéantissement.
Le maire attend désormais les résultats de l'enquête qui permettront de déterminer les circonstances exactes de l'accident sur cette route fréquentée où 10 000 véhicules circulent chaque jour.
Et dans cet accident, deux autres personnes ont été blessées, dont l'une grièvement. Emmanuel Macron justifie sa décision de dissoudre l'Assemblée nationale en déplacement sur l'île de Sainte. Le président de la République évoque la décision la plus lourde, la plus grave, mais aussi la plus responsable qu'il ait eu à prendre. Le reportage de Romain Cluzel.
En pleine déambulation, alors qu'il serre la main d'une habitante.
Comment avez-vous pu nous mettre dans cette situation?
Mais je devais faire ça.
Monsieur le Président, c'est impossible, ça va être le chaos.
Non.
Vous savez bien.
Mais madame.
Commence une longue séance d'explications pour le Président.
Je suis le premier à qui ça a fait mal le 9 juin, les résultats. Je l'ai pris vraiment pour moi. Ça m'a fait mal. Et donc, en mon âme et conscience, c'est une des décisions les plus lourdes que j'ai eu à prendre, madame. Je pense qu'il y a une majorité silencieuse qui, comme vous, ne veut pas les extrêmes. Et qui, comme vous, ne veut pas que ce soit le désordre.
Emmanuel Macron l'assure, cette dissolution permet de clarifier les intentions de chacun et le chef de l'État en profite pour attaquer les programmes de ses concurrents.
Le Rassemblement National et ses associés, ils proposent des choses qui peut-être font plaisir aux gens. Mais enfin, c'est 100 milliards par an. Ils proposent de nationaliser les autoroutes, de revenir sur la réforme des retraites. Et puis de l'autre côté, à l'extrême gauche, c'est quatre fois pire en termes de coûts. Et puis, il n'y a plus de laïcité. Ils reviennent sur les lois d'immigration qu'on a faites.
Si les Français nous refont confiance, ça ne pourra plus être comme avant, promet Emmanuel Macron, qui devrait conserver Gabriel Attal comme Premier ministre si son camp l'emporte.
Et vous l'avez entendu, la charge d'Emmanuel Macron contre le Rassemblement National, mais aussi contre le nouveau Front Populaire. Il juge le programme de la gauche ubuesque, totalement immigrationniste. L'Union de la gauche soutenue par la CGT, chose rare. C'est d'ailleurs une première depuis 1981, décision adoptée hier par les membres du Comité Confédéral National. Une consigne de vote que ne partagent pas forcément les autres syndicats, Martin Bourdin.
Cette décision a presque fait l'unanimité au sein de la CGT. 130 votants, une seule voix contre, 7 abstentions. L'appel à soutenir le programme du nouveau Front Populaire est donc massif.
Cette position-là, nous ne l'aurions jamais eue s'il n'y avait pas eu d'unité de la gauche.
Sophie Binet est la secrétaire générale de la CGT.
Le programme du nouveau Front Populaire comporte beaucoup d'avancées importantes pour le monde du travail. L'augmentation des salaires, l'abrogation de la réforme des retraites, la retraite à 60 ans, la réduction du temps de travail. Mais il ne comporte pas toutes les revendications de la CGT. Il y a plein de choses qui manquent.
Pour certains militants, c'est aussi une manière d'assumer ses responsabilités. De mieux définir le message qu'un simple vote pour dire non à l'extrême droite. Ce vote de barrage, c'est justement la consigne qui a été passée par d'autres syndicats, la CFDT notamment. Quant à Force Ouvrière, son secrétaire général Frédéric Souillot refuse de prendre parti.
Je n'appelle jamais à voter pour l'un ou contre l'autre, quelles que soient les élections. La seule politique qu'on mène, c'est la politique syndicale, défense des travailleurs.
Un seul syndicat pourrait finalement imiter la CGT et soutenir l'Union des Gauches, la FSU, le syndicat d'enseignants, qui vote aujourd'hui sur un texte similaire avec des mots bien choisis, précise le syndicat, pour ne pas perdre toute indépendance.
Alors, est-ce que la CGT va trop loin? Est-ce qu'elle sort de son rôle? Ou au contraire, est-ce qu'elle est cohérente avec ses combats en appelant à voter pour le nouveau Front Populaire? Est-ce que ça vous choque, hein, cette annonce de la CGT, cet appel au vote? N'hésitez pas à nous le dire ce matin, ça se passe au 32-16, évidemment. Est-ce que les appels au vote, d'ailleurs en général, hein, les syndicats, on a aussi vu le patronat prendre position, les artistes, les sportifs, est-ce que vous y êtes sensible? N'hésitez pas à venir nous le dire ce matin, ça se passe au 32-16 sur l'appli RMC, aussi sur Direct Studio. Et puis tiens, autre sujet qui, j'en suis sûr, va vous faire réagir. Tout à l'heure, à 7h40, Apolline reçoit un spécialiste du vote dans les milieux ruraux où le RN est arrivé largement en tête lors des élections européennes. Vous habitez un petit village, comment ça se passe? Tiens, racontez-nous sur le terrain. Vous habitez en milieu rural, est-ce que vous comptez voter pour le RN aux législatives? Venez nous dire au 32-16 pour quelles raisons.
RMC, il est 5h06. Trois jeunes garçons de 12 et 13 ans mis en examen pour viol et violence antisémite sur une jeune fille de 12 ans. Les plus âgés ont été placés en détention provisoire. Le troisième suspect fait l'objet d'une mesure éducative provisoire. Les faits, Lucille Pascalet, elles se sont produits samedi soir à Courbevoie, près de Paris.
Cette adolescente de 12 ans était avec un ami dans un parc près de chez elle quand trois connaissances, trois garçons les ont abordés et ont entraîné cette jeune fille dans un hangar désaffecté. Là, selon le récit de la victime, ces mineurs de 12 et 13 ans la frappent et la violent tout en proférant des insultes antisémites et en la menaçant de mort. Ils prennent ensuite la fuite. La jeune fille, elle, est prise en charge par les pompiers. Lundi, les trois suspects ont finalement été interpellés. Hier, deux d'entre eux ont été mis en examen pour viol aggravé. Le troisième a été placé sous le statut de témoin assisté. Ils sont aussi poursuivis tous les trois, notamment pour agression sexuelle en réunion, tentative d'extorsion et violence et injures aggravées du fait de l'appartenance de cette jeune fille à une religion. Les deux mineurs les plus âgés ont été placés en détention provisoire. Le plus jeune fait l'objet d'une mesure éducative.
Lucille Pascanet, service police-justice, RMC. Une éclaircie pour le prêt-à-porter français en difficulté, la reprise du groupe Nafnaf endetté par une entreprise turque qui s'engage à sauvegarder près de 90% des emplois et conserver une centaine de boutiques. Kylian Mbappé, toujours incertain pour affronter les Pays-Bas vendredi soir. L'attaquant des Bleus s'est fracturé le nez face à l'Autriche. Didier Deschamps nous donne ce matin des nouvelles de son capitaine.
Il y aura encore des examens pour faire en sorte de voir comment ça évolue. Évidemment, le choc a été important. Le staff médical a fait ce qu'il fallait pour réduire au maximum. Après les examens, évidemment, même si ça ne sera pas dans l'immédiat une intervention chirurgicale, il devra la faire. Mais bon, déjà ce matin, il était un peu mieux. Donc on va voir ça, on va suivre de près chaque jour.
Et pendant ce temps, les remplaçants ont affronté une équipe des moins de 21 ans de Paderborn. Hier en Allemagne, victoire des Bleus. 1-0 grâce à un but de Barcola.
Le Parisien, Barcola.
Oui, le Parisien. Et puis dans la compétition cette fois, mais il est français avant tout, Charles. Il défend le maillot bleu.
Ouais, et puis une victoire des Bleus, ça compte pas, hein, on est d'accord. Hein,
non, c'est un match amical, ça.
Mais c'est bon pour la confiance des remplaçants, oui. Très bien.
Allez, le Portugal a bataillé hier pour s'imposer 2-1 face à la République tchèque. La Turquie s'impose face à la Géorgie de Willy Sagnol. 3-1 ce soir, l'Allemagne va tenter de se qualifier pour les huitièmes de finale face à la Hongrie. Coup d'envoi 18h sur RMC. Allez, on termine avec cette montre perdue par un agriculteur anglais dans un champ il y a 50 ans, une Rolex que James Steele, aujourd'hui âgé de 95 ans, n'a jamais oublié. Alors qu'est-ce qu'il a fait ?
On n'oublie jamais sa Rolex. il avait 50 ans du coup, quand il l'a perdue.
Oui, voilà, c'est ça, parce qu'aujourd'hui il a 80 ans et il a décidé de faire appel à un chercheur de métaux qui a retrouvé l'objet dans un des champs de ce monsieur. Elle était tombée dans l'herbe et il nous dit qu'elle a probablement été avalée par une vache. Explique l'agriculteur qui a retrouvé sa montre bien abîmée mais qui a décidé de ne pas la faire réparer, ça coûte trop cher.
Mais elle fonctionne encore, on ne sait pas.
Ah non, elle fonctionne plus.
Ah oui,
bon, faut dire qu'elle a... bon, est...
Ouais, puis je suis pas sûr qu'elle ait très envie de la porter après.
Elle a beaucoup voyagé. On va dire oui, comme ça. Voilà. Elle a vu du pays. Bref, 5h09, c'était le journal de Thibaut Texer. À tout à l'heure, Thibaut, à 5h09, évidemment. On continue à vous écouter au 32-16 et à vous lire aussi. Tiens, Géraldine, on va aller sur l'appli RMC, sur Direct Studio.
Tiens, la Patrice qui nous fait un petit coucou ensoleillé depuis les Baléares. Il les écoute tous les matins en allant travailler.
Les Baléares.
Les Baléares, sympa. Hein,
oh là,
ça fait rêver.
C'est la magie de l'appli RMC, mais bon, c'est Baléares, ça fait rêver, ça fait vacances. On ne pense pas travailler, Baléares.
Et puis c'est notre débat aussi hein, aujourd'hui, la CGT qui appelle à voter pour le nouveau Front Populaire. Est-ce que c'est son rôle ? Pour Aïcha, oui, c'est normal qu'elle appelle à voter contre l'extrême droite. Pour Richard, en revanche, non, leur boulot c'est de porter la voix des employés dans une entreprise et pas de faire porter leur voix via les élections.
Ah, est-ce que la CGT va trop loin ? On continue évidemment à en débattre avec tous vos messages. Vous les lèvez tôt, là, je vous vois, hein, Michel, Romain, Denis, Aïcha. Oui, vous êtes déjà là sur Direct Studio. On continue à vous lire, à vous écouter aussi. Vous appelez Quentin au 32-16. Vous venez vous installer autour de la table quand vous voulez. Il est 5h11.
RMC, Charles Matin, êtes-vous bien réveillé ?
Et oui, comme chaque matin, on vous offre des cadeaux sur RMC pour vous, les leftos. Il suffit d'être attentif, d'écouter toute l'info et de répondre à notre question d'actu.
Quel syndicat a appelé au vote pour le nouveau Front Populaire hier ?
Bon, vous avez forcément la réponse, on vient d'en parler. Et maintenant, il n'y a plus qu'à être rapide. Envoyez le mot actu par SMS au 732-16. Actu au 732-16.
Ça vaut le coup, il y a un très joli radio réveil de la marque Muse à gagner si vous êtes tiré au sort.
Oui, et vous serez en direct avec nous tout à l'heure à 6h20 sur RMC. Donc soyez rapide, vous envoyez actu par SMS 732-16.
75 centimes. Par SMS, 3 SMS maxi.
Vous êtes bien réveillé sur RMC avec Muse. Toute une collection d'enceintes portables, de radios, casques, platines vinyles et plus encore à découvrir sur muse-europe.com.
RMC, Police Justice.
Et comme chaque matin, votre rendez-vous avec le service Police Justice d'RMC. On retrouve tout de suite Julie Brault. Bonjour Julie.
Bonjour Charles, bonjour Géraldine, bonjour à tous.
Bonjour.
Ce matin, vous nous racontez l'histoire de ce policier du RAID blessé par balle après s'être fait voler son arme par des cambrioleurs.
Oui, ce policier était pourtant hors service avant-hier, mais sa soirée n'a pas été de tout repos. Vers 23h, il est réveillé par des bruits suspects chez ses voisins. Il sort alors de chez lui pour s'assurer que tout va bien. Et c'est là qu'il aperçoit deux inconnus en train de sortir en douce de la maison. Deux hommes portant des casquettes et des masques chirurgicaux qu'il suspecte alors d'être d'être en plein cambriolage. Le policier d'élite les prend donc en chasse pour tenter de les neutraliser, mais une violente bagarre éclate. L'un des deux hommes l'asperge de gaz lacrymogène, une attaque qui lui permet de déstabiliser le policier avant de lui piquer son arme de service, un Glock 17, ce modèle de pistolet semi-automatique. Alors une fois l'arme en main, le cambrioleur n'hésite pas une seule seconde et lui tire dessus. Le policier du raid, touché à l'épaule, est ensuite projeté au sol pendant que les deux suspects, eux, prennent la poudre d'escampette. Alors quelques minutes plus tard, quand les policiers de la BAC, cette fois-ci, arrivent sur place, plus aucune trace des deux fuyards. Seul l'étui de pistolet vide du policier est retrouvé sur le sol, juste à côté de leur collègue blessé, transporté à l'hôpital. Son pronostic vital n'est pas engagé, mais le quinquagénaire doit tout de même subir une intervention chirurgicale. Désormais, les enquêteurs de la police judiciaire de Versailles tentent de retrouver les deux suspects, mais aussi le Glock volé. Une enquête pour vol et tentative d'homicide en Réunion a été ouverte.
Merci pour ce récit, Julie. Julie Brault, reporter au service police-justice d'RMC.
À suivre dans Charles Matin sur RMC.
À vous de nous dire si la CGT va trop loin. Le syndicat qui s'engage dans ces législatives en appelant au vote pour le nouveau Front Populaire. C'est assez inédit. D'habitude, la CGT se contente d'appeler à faire barrage à l'extrême droite. Aujourd'hui, elle va plus loin. Est-ce qu'elle sort de son rôle? Est-ce que les syndicats doivent s'engager dans cette campagne? Est-ce que le patronat doit s'engager? On entend aussi beaucoup d'appels au vote de sportifs, d'artistes. Est-ce que vous y êtes sensible, tiens, à ces appels au vote? Est-ce que ça peut influencer votre choix le 30 juin, le 7 juillet prochain? N'hésitez pas à nous le dire. C'est à vous de nous dire. C'est au 32-16 dans un instant. Et puis tout de suite, RMC qui s'engage avec vous. Solène Leroux vient en aide à Sophia. Sophia qui est handicapée par son électro-hypersensibilité, une pathologie invisible. Son témoignage dans un instant.
RMC jusqu'à 6h30. Charles Matin.
Charles Magnin.
5h15 et vous êtes bien sur RMC.
Vous avez un problème? RMC a la solution. RMC s'engage avec vous.
Et on se retrouve tout de suite, Solène Leroux. Bonjour Solène.
Bonjour Charles, bonjour Géraldine.
Alors aujourd'hui Solène, vous avez choisi de nous parler d'une pathologie méconnue, invisible, mais bien réelle, l'électro-hypersensibilité.
Et je vais vous raconter le calvaire de Sophia, 43 ans. Depuis plus de 10 ans, elle souffre d'un mal moderne. Son corps ne tolère plus les ondes électromagnétiques, troubles neurologiques, cardiaques, douleurs articulaires, fatigue intense. Sophia a tout essayé pour aller mieux, s'installer dans une caravane, dans sa voiture, mais elle n'est à l'abri nulle part.
Je ne peux pas vivre normalement. Je ne peux plus vivre dans les immeubles en appartement parce qu'il me rend malade à cause de l'excès d'ondes. Je ne peux pas posséder un téléphone portable. C'est difficile d'être entouré quand on n'a pas de téléphone portable dans une société aussi connectée. C'est la tristesse et la violence de ma situation actuelle. Si je ne fais rien pour trouver de l'aide, je vais finir dans un carton sur le trottoir.
Le handicap de Sophia est reconnu, invalide à 50%. Elle ne peut plus travailler et vit seule avec 950 € par mois d'allocation adulte handicapé.
Mais Solène, cette maladie, elle n'a rien d'imaginaire et en fait, elle touche plus de monde qu'on ne le pense.
Bluetooth, Wi-Fi, objets connectés, lignes à haute tension. En fait, on est tous exposés aux ondes, mais on ne réagit pas tous de la même manière. Selon l'Agence nationale de sécurité sanitaire, 5% de la population serait électro-hypersensible, soit plus de 3 millions de Français. Et il n'y a pas de traitement, pas d'accompagnement.
Mais alors, ça veut dire que Sophia, en fait, est contrainte de se débrouiller toute seule, quoi, de trouver des solutions par elle-même.
Ouais, la seule solution, c'est s'éloigner des ondes, s'installer dans une zone blanche. Mais encore faut-il avoir le droit de le faire. Dans les Alpes de Haute-Provence, l'Office national des forêts réclamait l'expulsion d'un malade qui avait trouvé refuge sur un de ses terrains. Il y a 3 mois, la justice l'a finalement autorisé à rester au nom du droit à la santé. Et le rêve de Sophia, ça serait ça, construire en fait une petite cabane en bois sur un terrain isolé en Indre-et-Loire où elle vit. C'est donc un appel qu'on lance ce matin. Si vous pouvez aider Sophia, écrivez-nous à l'adresse rmcavecvous@rmc.fr. On s'occupe du reste.
Évidemment, l'appel est lancé. Merci Solène. Oui, vous avez raison de rappeler cette adresse, notamment pour aider Sophia et pour vous contacter. D'ailleurs, vous n'hésitez pas. rmcavecvous@rmc.fr. 5h18, on part tout de suite au 32-16.
RMC, à vous de nous dire.
À vous de nous dire si la CGT va trop loin. Hier, c'est RMC qui vous a révélé que le syndicat lançait officiellement un appel à voter pour le nouveau Front Populaire. Sophie Binet, la secrétaire générale de la CGT, s'est justifiée hier soir sur BFM TV.
Nous appelons non seulement à faire barrage à l'extrême droite, mais nous appelons à mettre le progrès à l'ordre du jour et à voter pour le programme du nouveau Front Populaire qui est celui qui répond le mieux aux aspirations du monde du travail et qui permet le plus d'avoir des mobilisations gagnantes.
Alors c'est vrai que traditionnellement, le syndicat se contente d'appeler à faire barrage contre l'extrême droite, mais sans donner de consigne de vote précise. Là, c'est pas le cas. D'ailleurs, on le rappelle, la CGT s'est même investie dans cette campagne dès le lendemain de la dissolution en appelant à créer une union des gauches.
Et au-delà d'ailleurs de la CGT, les appels de personnalités se multiplient ces derniers jours. On a beaucoup parlé des sportifs avec Kylian Mbappé, il y a les artistes, mais il y a aussi le patronat, hein, l'Association française des entreprises privées, l'AFEP, qui regroupe les 100 plus grandes boîtes françaises, a alerté sur un risque majeur de décrochage durable de l'économie à l'issue des législatives, en visant, sans les nommer directement, les programmes du RN et du Nouveau Front Populaire. Bref, beaucoup s'engagent dans cette campagne, beaucoup de grandes voix en France qui prennent position. Est-ce que ça vous choque? Est-ce que ça va trop loin? Ou au contraire, est-ce que vous êtes sensible à ces appels? On va poser la question à Damien, qui nous appelle de Nice. Bonjour Damien.
Bonjour.
Bonjour Damien.
Bonjour Damien. Bah, comment ça va d'abord ce matin, Damien?
Ouais, très très bien, il fait beau, le ciel est magnifique, le soleil se lève à peine, mais c'est agréable.
Eh ben, vous avez bien de la chance, Damien, d'être à Nice.
C'est 20 degrés déjà.
Oui, oui, bah ça va, arrêtez de nous narguer, Damien.
Non, pas du tout, restez très bien déjà, tout le monde comme ça. Alors, on ne se fâche pas si vous restez chez vous, vous voyez.
Exactement. Voilà. Bon, en attendant, Damien, racontez-nous, comment vous accueillez ces appels au vote? Est-ce que c'est le rôle d'un syndicat de dire aux travailleurs d'aller voter pour tel ou tel mouvement?
Eh ben, je pense que la dernière fois, ils ont fait fort. Vous avez déjà dit qu'il fallait voter Macron. Ils ont beaucoup le nez creux, je pense, à la CGT. Avec la France insoumise dans le coin, là, c'est impossible de voter pour ces gens-là. C'est impossible. La prochaine étape, c'est quoi? C'est d'exclure les travailleurs juifs? Peut-être.
Ah, n'exagérons rien, Damien. C'est pas ce que dit la CGT.
Oui, non, mais justement. Non, mais à la Sorbonne, déjà, on a exclu déjà les étudiants juifs. Donc, c'est quoi la prochaine étape? Donc, c'est un truc qui a été fait de briques et de broc en deux jours. C'est même pas des vieux chevaux de retour. C'est, en fin de compte, c'est des gens qui comprennent rien. Alors maintenant, la CGT, elle a du nez. C'est bien. Qui s'occupe des travailleurs? Il y a beaucoup de choses à faire dans le monde du travail. Il y a beaucoup de choses à faire encore.
Vous travaillez-vous, Damien? Je n'ai pas écrit sur la fiche que vous faites dans la vie.
Je suis presque en retraite, en semi-retraite. Mais franchement, ça va trop loin. Là, il faut qu'ils restent à leur place.
Oui, alors pour vous, plus largement, il ne faut pas que les syndicats, il ne faut pas que le patronat, tout le monde doit rester silencieux sur la politique.
Les gens doivent être libres de voter ce qu'ils veulent. On ne peut pas essayer toujours d'influencer les gens, parce qu'après, il n'y a plus de responsables dans cette histoire-là. À chaque fois que ça se passe mal après, on ne savait pas, tout ça et tout. C'est toujours la même histoire, on ne savait pas. Macron, c'est la même histoire, personne ne savait. Maintenant, on voit qu'en fin de compte, il y a beaucoup de bagarres d'égo, tout ça là-dedans. Vous vous rendez compte que la mesure phare de M. Macron, le lendemain de la dissolution, c'était le portable pour les enfants? Nous on s'occupe de nos enfants.
Je ne sais pas si c'est la mesure phare, mais en tout cas, oui, c'est vrai que lors de cette grande conférence de presse, il a annoncé l'interdiction du portable avant 11 ans. J'entends tout à fait, Damien. En fait, quand dans votre appel, vous nous dites qu'il faut que tout le monde se taise. Si je comprends bien, en période électorale, il n'y a que les politiques qui ont le droit de parler, quoi. Pas les sportifs, pas les chanteurs, pas les acteurs. Mais pas les syndicats, pas le patronat. En fait, on devrait laisser. Oui, mais alors, Damien, on est aussi on le sait, en France, un peuple très, très politique. Chacun aime s'engager, prendre parti, prendre position.
Qu'est-ce qu'il faut payer? Tout le monde se barre.
J'ai envie de vous dire, après c'est plus facile de s'engager après la bataille, après les résultats. C'est aussi bien que les gens disent clairement dans quel camp ils sont, non, avant le vote, non, c'est plus courageux.
Normalement, il y a pas de camp, c'est la France le camp.
C'est pas faux.
Faut voir comment on est actuellement.
Mais en attendant, il y a une élection, il y a des choses à trancher là, les Français sont amenés.
Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Cette semaine, nous avons été cambriolés 3 fois. Voilà.
Votre appartement, Damien, votre maison?
Non, notre entreprise. 3 fois, on a été cambriés. J'étais dans la police fait son travail. Mais les gars, ils sont relâchés. Les gens, ce qu'ils veulent, c'est bouffer, mais bouffer tranquille.
Oui, j'entends bien. C'est en tête de vos préoccupations, en tout cas, et on le voit dans les sondages. Vous dites bouffer, mais bouffer tranquille, c'est exactement ça. C'est le pouvoir d'achat et la sécurité qui arrive en tête des préoccupations des Français. En attendant, on entend bien que vous souhaitez que la CGT reste à sa place. Je ne sais pas si c'est le bon terme, en tout cas, reste silencieuse, n'appelle pas au vote pour le nouveau Front Populaire. On va voir si tout le monde est d'accord avec vous ce matin. Est-ce que la CGT va trop loin, comme le dit Damien? Vous n'hésitez pas, vous aussi, à prendre la parole. Merci, Damien, d'être passé au 32-16 ce matin depuis Nice. bonne journée évidemment sur RMC. Et venez nous dire ce matin si vous partagez la position de Damien. Le 32-16 est ouvert. On lit aussi tous vos messages sur Direct Studio.
RMC, Charles Matin.
À suivre sur RMC, le journal de 5h30 qui approche. C'est dans 5 minutes maintenant avec à la une. Tiens, cette tornade dans l'Oise hier soir, vous aurez tous les témoignages dans un instant sur RMC. À 5h40, c'est toute la bande de Charles Matin qui va nous rejoindre.
Il y aura Jordan Olivier pour la Story Sport qui connaît le montant des primes que les Bleus pourraient toucher en cas de victoire. Il y a beaucoup de zéros derrière. Anthony Morel pour C'est Déjà Demain. Est-ce que l'IA va un jour remplacer nos juges? Tiens, ma question.
La justice version intelligence artificielle. Mais tout de suite, Géraldine, ta solution conso.
Je vous aide à économiser sur votre facture d'électricité en changeant de fournisseur.
RMC, 5h-6h30. Charles Matin.
Charles Magnin.
5h26, comme chaque matin, Géraldine s'occupe de votre pouvoir d'achat.
RMC,
la solution conso.
Alors Géraldine, les prix de l'électricité sont en baisse depuis plusieurs semaines, mais ça se voit pas forcément directement sur nos factures. Est-ce que ce serait pas le moment de changer de fournisseur?
Ah oui, parce qu'il faut savoir que changer de fournisseur, c'est ce qui va le plus impacter votre facture, bien plus que d'éteindre la lumière en quittant une pièce ou faire ses machines aux heures creuses. Donc oui, ça vaut le coup en tout cas de comparer les offres, puisque certains fournisseurs alternatifs proposent des offres jusqu'à 20% moins chères que le tarif réglementé. Alors pour savoir lequel choisir, vous pouvez passer par un comparateur en ligne. Attention d'en choisir un neutre qui ne reçoit pas de commission pour mettre en avant un fournisseur plus qu'un autre. Par exemple, vous avez celui de l'UFC Que Choisir ou celui du médiateur de l'énergie, tout simplement. À partir de là, vous allez pouvoir comparer le prix du kilowattheure, le prix de l'abonnement. Et ce qui est important aussi, ça va être de regarder la satisfaction client. Sur le site du médiateur de l'énergie, vous pouvez vérifier le taux de litige du fournisseur et c'est vraiment un point important. En 2023, par exemple, Waikiki était en queue de peloton avec un gros carton rouge, alors qu'en tête, on trouvait Octopus Energy et Ilec qui, eux, ont très peu de demande de médiation. Regardez bien aussi si le tarif est fixe pendant une durée limitée ou s'il peut varier. Alors, c'est un choix à faire, mais si vous optez pour un tarif variable, vous pourrez être confronté à une hausse des tarifs. Si vous optez pour du fixe, vous serez protégé des hausses et vous pourrez quand même toujours changer pour une offre moins chère si vous voulez bouger plus tard.
Donc, on change en prenant ses précautions, en allant vérifier le passif, les avis des consommateurs sur ce nouveau fournisseur. Mais est-ce que c'est simple ensuite la démarche quand je veux changer de fournisseur?
Alors, si vous êtes un particulier, c'est ultra facile. C'est le nouveau fournisseur qui va s'occuper de tout. Vous n'aurez pas de coupure, votre paiement sera automatiquement arrêté. Le nouveau contrat prendra tout simplement la relève du précédent. Quand vous êtes un particulier, il faut savoir qu'un contrat d'électricité n'est jamais engageant. Vous pouvez résilier et changer sans frais quand vous voulez. En revanche, si vous êtes un professionnel ou une copropriété, là c'est plus compliqué. Et le médiateur de l'énergie note une nette hausse des frais de résiliation chez les fournisseurs de gaz et d'électricité. Alors ce sont parfois des dizaines de milliers d'euros. On ne parle pas de petites sommes, c'est des sommes qui sont réclamées à des artisans, des petits patrons. Et alors là, bon courage pour savoir à l'avance combien on va vous réclamer, puisque les conditions changent parfois en cours de contrat. Donc il faut vraiment bien relire toutes les petites lignes. Et vous pouvez aussi tout simplement demander à votre fournisseur combien ça va vous coûter de résilier par écrit, histoire d'avoir une preuve et de savoir vraiment à quoi vous attendre.
Oui, voilà, qui s'engage clairement. Oui, exactement. Savoir à quoi s'attendre avant de résilier, ça c'est pour les professionnels. Les artisans ou même les copropriétés. Pour les particuliers, c'est nettement plus simple. Les bons conseils, les astuces conso de Géraldine à retrouver tous les matins en direct sur RMC, mais aussi quand vous voulez en podcast sur notre appli. Allez, on se fait plaisir. À 5h28, comme chaque matin, c'est l'heure de sourire, c'est l'heure du meilleur d'Arnaud Demanche.
Je me posais la question, si Jordan Bardella devient Premier ministre, ça va être quoi le futur de CNews, parce qu'ils vont devenir une télé d'État. Ils vont lécher les bottes du pouvoir du soir au matin. Ça va être nord-coréen. Ou alors, autre option, ils se disent que leur succès éditorial, c'est d'être totalement anti-système. Et alors là, ils basculent à l'extrême gauche avec de nouvelles émissions.
Bonjour et bienvenue dans l'heure des prolos avec Pascal Prolo pour décrypter avec vous les mécaniques oppressives du grand capital possédant et de la bourgeoisie spoliatrice. Un choix ou un autre, on ne sait pas.
Et on retrouve Arnaud tout à l'heure en direct dans Apolline Matin. RMC 5h30.
RMC, Charles Matin.
Bon réveil à tous, bienvenue sur RMC. Bon courage si vous êtes déjà sur la route, déjà au boulot. À 5h30, toute l'info, c'est en direct. C'est votre journal présenté par Thibaut Texer. Bonjour Thibaut.
Bonjour Charles, bonjour à tous. Le Cher et l'Indre, toujours en vigilance orange aux orages ce matin. Grêle, inondation, mais aussi du vent. Hier, une tornade a balayé un village de l'Oise. 7 morts, bilan d'un accident de la route hier soir près de Chartres. Parmi les victimes, 5 jeunes âgés de 17 à 19 ans, ainsi qu'un couple d'octogénaires. 2 autres personnes sont blessées. Leurs jours ne sont pas en danger. danger. Et puis les législatives interpellées sur le chaos à venir, Emmanuel Macron assume et justifie la dissolution de l'Assemblée nationale. Jordan Bardella persiste, il n'y aura pas à Matignon, sauf en cas de majorité absolue. Et puis chose rare, la CGT a donné consigne de vote pour le nouveau Front populaire.
Le Cher et l'Indre toujours en vigilance orange aux orages jusqu'à 6h ce matin.
Des vigilances orange avec des intempéries qui ont été parfois violents. Hier, une tornade a traversé le village de Carlepont, c'est près de Noyon dans l'Oise, un phénomène particulièrement rare qui a surpris les habitants de la commune rencontrée par Romain Poiseau pour RMC.
En quelques minutes, le ciel s'est assombri, le vent s'est mis à tournoyer.
Ah oui, 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 d'un seul coup, ça devient tout noir, les vents, mais c'est un bruit indéfinissable.
Olivier a vu la tornade passer sur sa maison alors qu'il rentrait du travail.
Dans le rétroviseur, oui, je voyais mon toit de maison qui se renvolait en fait. Des tuiles qui volaient, tout à fait. Ah ouais. Dans un tourbillon. J'ai pas fait de vieux os ici, j'ai taillé la route et voilà.
La tornade a traversé tout un quartier. Daniel a vu passer à toute allure un cabanon de jardin devant sa baie vitrée.
Ça passe à une vitesse incroyable, quoi. Le cabanon qui a traversé quatre jardins. Mais ça a tout emporté, quoi. Tout.
36 maisons ont été impactées par la tornade. Pas de gros dégâts, seulement des tuiles emportées par le vent.
J'espère qu'il va pas pleuvoir dans mon lit.
La petite maison de Françoise, 90 ans, a quelques trous dans la toiture.
C'est dur, hein, de voir que tout ça s'envole. On se dit, tiens, tout va partir. Oh ben, moi, j'ai failli tomber dans les pommes. Hein. C'est compliqué. Hein.
Et à 90 ans, elle n'aurait jamais pensé voir une tornade de sa vie.
On en voit des choses dans toute une vie. Si j'avais été là, souvent avec mes petits pots de fleurs, là, eh ben, je prenais ça sur la tête. J'aurais pu rester...
Mais heureusement, plus de peur que de mal.
Mais non, je suis là. C'est bien.
Tragique accident de voiture hier sur une départementale à Bayeux-le-Pin, en Eure-et-Loire, près de Chartres. Le bilan est lourd, 7 morts, un couple d'octogénaires, mais aussi 5 jeunes âgés de 17 à 19 ans. Ils ont péri dans l'incendie de leur voiture. Vive émotion du maire de la commune, Martial Lochon. Il a dû annoncer la terrible nouvelle aux parents de l'une des victimes.
C'est des gens discrets qui vivaient au cœur du village, qui n'avaient qu'un seul enfant. Et aujourd'hui, c'est l'anéantissement. On est humble, on est impuissant, on est effondré. On a eu à gérer les familles, où là, c'est complètement compliqué. On essaie de faire en sorte que d'apporter notre pierre à l'édifice, mais il y a cette famille anéantie où tout sera jamais plus pareil qu'avant. C'est horrible.
Notez que deux autres personnes ont été blessées, l'une grièvement. Une enquête a été ouverte. Trois adolescents de 12 et 13 ans mis en examen pour viol en réunion et viol en tendance antisémite sur une jeune mineure de 12 ans. Ça s'est passé samedi dernier à Courbevoie dans les Hauts-de-Seine. Le président du consistoire central, Élie Corchia, dénonce un crime sexuel sordide et ignoble. La majorité absolue le 7 juillet prochain, c'est la condition de Jordan Bardella pour accepter Matignon. Le leader du Rassemblement national en a expliqué les raisons hier aux 20h de France 2, Hélène Terzian.
Il veut avoir les coudées franches pour appliquer son programme. Une majorité absolue, sinon rien pour Jordan Bardella. C'est un appel massif au vote, veut faire croire basiquement un stratège du RN. Rien de tout cela pour le camp présidentiel, mais bel et bien une preuve de capitulation, de trahison, lâche une ministre, dans l'ADN, dit-elle, de sa famille politique. Le signe d'un énième renoncement après ceux de son programme, estime-t-on dans le bloc central. Aucun doute, il se sent pétrifié, enchaîne un conseiller de l'exécutif. Il réalise qu'il a 28 ans et que Matignon, c'est quand même une grande maison. Seul intérêt décelé par un député sortant macroniste, en cas de courte majorité du RN, un refus de Matignon obligerait le président à nommer un autre Premier ministre, peu assuré de survivre à une motion de censure, une instabilité politique qui pourrait favoriser l'arrivée du RN à l'Élysée.
Un poste de Premier ministre qui divise la gauche en cas de victoire. Si Olivier Faure, patron du PS, milite pour un vote de désignation entre les futurs députés, l'initiative ne convainc pas les insoumis. Ils appellent à voter pour le responsable du parti comptant le plus de députés à l'issue du scrutin. Le nouveau Front populaire soutenu par la CGT, c'est une première depuis 1981. Le nouveau Front populaire aussi dans le viseur d'Emmanuel Macron. En déplacement sur l'île de Sein, le chef de l'État a fustigé le programme de la gauche taxé d'ubuesque et totalement immigrationniste. Emmanuel Macron qui justifie également sa décision de dissoudre l'Assemblée nationale. Une décision lourde, grave mais responsable, dit-il à une dame qui venait de l'interpeller. Rien n'est au-dessus de la souveraineté populaire, conclut le chef de l'État. Mbappé deviendra-t-il le buteur masqué de toute évidence, oui. S'il est amené à poursuivre l'Euro, le capitaine des Bleus, un certain vendredi face aux Pays-Bas, devra porter un masque pour la suite de la compétition. Mais est-ce bien raisonnable? Réponse de Manuel Gavel, spécialiste en rééducation maxillofaciale.
En termes de prothétique, c'est assez facile à protéger. Après, comme c'est des masques sur mesure quand même, il faut prendre les mesures exactes. Et là, je pense qu'actuellement, il y a encore un œdème qui dure en règle générale 3, 4, 5 jours. Donc, c'est difficile de prendre des mesures vraiment réalistes pour faire un masque sur mesure adapté à son visage. Ce qui se fait en règle générale, on part d'abord sur un masque en matériaux thermoformables. Donc, ce sont des plastiques qu'on va chauffer, qu'on va mouler au visage. Le temps de fabriquer le masque en carbone, et puis ça permet de pallier justement ce manque de temps.
Et en attendant, le prochain match des Bleus, vendredi, place à la deuxième journée des phases de qualification aujourd'hui avec les huitièmes de finale dans le viseur de l'Allemagne. Le pays hôte affronte la Hongrie à 18h. Match à vivre sur RMC, radio officielle de l'Euro, et à suivre 24h sur 24 sur la radio digitale disponible via l'application RMC. Hier soir, le Portugal a battu la République tchèque 2-1. L'amour chez les jeunes des moins de 30 ans, passé au crible par une étude de l'INED qui s'intéresse pour la première fois au sujet. On y apprend notamment que les applications de rencontres n'ont plus vraiment la côte. 11% des 18-29 ans déclarent avoir trouvé l'amour par ce biais. Des jeunes qui préfèrent désormais miser, Alfred Orange, sur les lieux de travail, les lieux publics ou encore leur entourage.
Oui, c'est dans la rue, en levant le nez de son téléphone, que Jody, 27 ans, a eu le coup de foudre.
Il travaillait en ville et je passais tous les jours devant la boutique. Je disais, oh, il est trop beau. Sa beauté m'a hypnotisée et au final, je suis tombée sur lui par hasard en boîte. Donc là, palpitation du cœur, j'étais pas bien, je me suis dit comment je vais faire.
Là, on est sûr que vous voulez connaître la suite, la voici.
J'ai pris mon courage, je suis allée le voir et un regard et ça fait 4 ans qu'on est ensemble aujourd'hui.
Cette montée en puissance du désir, c'est impossible à créer par écran interposé, tranche Quentin, dégoûté par les applications de rencontre.
Le problème des réseaux sociaux, c'est qu'on prend 1000 informations à la seconde. Ça enlève un petit peu ce côté spontané de rencontrer une personne au bon moment, au bon endroit.
D'après cette étude, les bars et le lieu de travail sont les endroits privilégiés pour faire des rencontres, et pour certains, il n'y a même pas besoin de chercher.
De toute façon, moi je cherche pas l'amour, ça me tombe dessus souvent.
Des diversités de situations qui traduisent la vitalité des rencontres chez les jeunes. D'après cette enquête, 79% des moins de 30 ans ont connu au moins une relation l'année dernière.
Allez, on termine avec ce vol dans une boutique de prêt-à-porter le week-end dernier à Soissons. Une paire de chaussures dérobées par un couple filmé par les caméras de vidéosurveillance. Alors plutôt que de faire appel à la police, le propriétaire de la boutique a décidé d'abord de publier la vidéo sur les réseaux sociaux cachant le visage des voleurs avec ce message: avis à ce gentil couple venu hier, vous avez laissé vos anciennes chaussures, venez les chercher parce que vous êtes malencontreusement parti sans payer. Une tactique payante justement, puisque la dame est venue payer sa paire de chaussures lundi matin, prétextant une erreur d'inattention.
Ah oui, quand même.
Pourquoi pas, ouais, c'est mieux que de porter plainte, c'est
oui,
une première tentative.
Exactement, les courses. Oui, les faut avouer tout ça. Les courses, c'est Bordeaux le Bouscat aujourd'hui.
Et c'est à 14h05, Charles, sur RMC Découverte, le 13 Y de Céland, le favori de la Dream Team RMC, l'outsider. C'est le 16, Green Dream, le 13 et le 16.
5h38 sur RMC, vous continuez évidemment à nous appeler au 32-16, on continue aussi à lire vos messages en direct sur l'appli RMC avec Direct Studio, Géraldine.
Oui, la CGT qui appelle à voter pour le nouveau Front Populaire, est-ce qu'elle est dans son rôle pour Romaric? Ça n'est pas surprenant, c'est un parti de gauche, ça tout le monde le sait. Pour David, c'est pas la première fois que la CGT appelle à voter. Ils sortent totalement de leur rôle. Il y en a marre de ces gens qui nous disent quoi penser. On a Romain aussi qui nous dit comment est-ce qu'on peut être influencé par des appels quand on a ses propres idées. Pas besoin d'être influencé.
Alors, est-ce que la CGT va trop loin? Le patronat aussi qui s'engage. Est-ce que les acteurs économiques, du monde du travail, mais aussi du monde culturel, les sportifs qui s'engagent, est-ce que vous êtes sensible à tous ces appels? Est-ce que la CGT est allée trop loin en appelant à voter pour le nouveau Front Populaire? C'est vous qui allez nous le dire ce matin au 32-16. Mais tout de suite, à 5h39, je vous rappelle que c'est le retour de la 6e édition des meilleurs artisans de France sur RMC.
Ben oui, vous êtes artisan, carreleur, maçon, peintre, décorateur, ce concours est fait pour vous. Vous avez jusqu'au 14 juillet pour déposer votre candidature sur rmcmeilleursartisansdefrance.fr.
Et d'ailleurs, on va tout de suite appeler l'un des gagnants de l'an dernier. On est en ligne avec Anthony. Bonjour Anthony.
Bonjour.
Anthony, meilleur carreleur l'année dernière. Vous êtes du côté de Cholet, dans le Maine-et-Loire, c'est ça? Anthony, bon, j'imagine le veto pour le boulot, mais racontez-nous, il y a un an, qu'est-ce qui vous a décidé à vous lancer dans ce concours du meilleur artisan de France?
Je suivais ce concours depuis le début. J'ai jamais eu le temps de m'inscrire. Et j'ai eu l'occasion de m'inscrire parce que j'avais du temps sur le travail cette année-là. Et j'avais grand cœur à le faire de toute façon, puisque quand on voyait la qualité du concours, j'avais envie de me lancer et me tester, et puis rencontrer en même temps l'ambiance du concours RMC, puisque je le suivais depuis les premières éditions. Quoi.
Mais c'est ça, c'est se challenger avec les meilleurs dans son domaine. Et alors, qu'est-ce que ça a changé depuis un an quand on est meilleur carreleur de France? Ça en impose un peu, Anthony.
Oui, après on garde la tête sous les épaules quand même. Après, ça fait... c'est un petit plus, on va dire, envers nos clients, on va dire, qui connaissent déjà un peu notre qualité de travail. Bien sûr, c'est la fierté hein, de remporter. C'est un petit plus, on rencontre du monde en plus par-dessus, ça donne des contacts.
C'est ça, donc, c'est un bon moment, du réseau, c'est de la fierté, et puis ça vient valider, mettre en valeur un savoir-faire, et c'est ce qu'on essaye de faire tous les ans avec ce concours des meilleurs artisans de France. Merci Anthony d'être passé avec nous ce matin, parce que je suis sûr que votre témoignage va donner envie à d'autres de se lancer. Vous les incitez et vous faites bien, Anthony. Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin. Bon courage pour le boulot en tant que meilleur carreleur de France, mais vous aussi, vous vous inscrivez évidemment, on le rappelle, hein, vous êtes carreleur, mais aussi maçon, peintre décorateur, plâtrier, plombier, chauffagiste. Vous avez jusqu'au 14 juillet, c'est ça hein ?
Exactement, pour déposer votre candidature, ça se passe sur rmcmeilleursartisansdefrance.fr. Et puis la grande finale, c'est le 30 septembre et le 1er octobre. Ça sera Porte de Versailles à Paris.
Et voilà, vous faites comme Anthony, vous vous inscrivez dès maintenant pour participer au concours des meilleurs artisans de France.
RMC, Charles Matin, êtes-vous bien réveillé ?
Allez, on ne perd pas les bonnes habitudes. Tous les matins, on vous offre des cadeaux sur RMC. On vous gâte si vous avez bien écouté toute l'info, toute l'actu. Et pour ça, on vous pose une question.
Quel syndicat a appelé au vote pour le nouveau Front Populaire hier ?
Ah, la réponse, vous l'avez. Si vous avez écouté le journal,
on
en débat ce matin, ça vous fait réagir. Et dans ce cas-là, si vous avez la bonne réponse, vous envoyez tout de suite actu par SMS 732-16.
Et si vous êtes tiré au sort, vous pourrez gagner un super radio réveil de la marque Muse, le radio réveil RMC, bien sûr.
Évidemment, et le gagnant ou la gagnante en direct avec nous tout à l'heure à 6h20. Bonne chance à tous.
75 centimes par SMS, 3 SMS maxi. Les indiscrets RMC.
Oui, les indiscrets, les coulisses de l'actu tous les matins. Et évidemment, on vous emmène ce matin dans les coulisses de la campagne des législatives avec Hélène Terzian du service politique. Bonjour Hélène.
Bonjour Charles, bonjour Géraldine.
Bonjour.
Alors, qui dit campagne électorale dit souvent grand meeting, mais cette fois-ci, le timing est très très resserré. Alors Hélène, les partis en auront-ils les moyens ?
Un grand meeting pour convaincre, une démonstration de force pour haranguer les foules dans cette campagne éclair. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle ? À cette question, seul le Rassemblement National dit oui. C'est seulement cosmétique, mais c'est énergisant, explique par exemple ce cadre. C'est important pour rassembler et ça fait de belles images, poursuit un désormais ex-député du RN. L'équipe de campagne recherche justement un lieu. Certains évoquent le Var. Ce serait symbolique dans ce département voisin d'Éric Ciotti, toujours président de LR, que des députés RN sortants aimeraient voir aux côtés de Marine Le Pen et de Jordan Bardella dans l'entre-deux-tours. Mais le temps est précieux. Alors, d'autres, comme le camp présidentiel, privilégient le terrain. Beaucoup estiment que les meetings n'est pas utile. C'est pour rebooster le moral, mais ça n'apporte pas une voix, ferme un pilier de la majorité. Un conseiller de campagne mis en revanche sur les déplacements de ministres auprès des candidats. Sur le flanc gauche, pas de meeting non plus à l'horizon. Pourquoi pas, en revanche, se greffer à des initiatives, confie un conseiller du PS, comme par exemple la nouvelle manifestation des syndicats contre l'extrême droite dimanche. Et puis, la question financière entre en compte. Difficile de faire passer un meeting national dans les frais de campagne de candidats locaux.
Merci Hélène Terzian pour ses coulisses. Hélène Terzian du service politique d'RMC.
RMC, Charles Matin.
Et à 5h44, ça y est, la bande est là, installée autour de la table, plein d'infos à partager. Le sport, Jordan Olivier.
Oui, on va parler des primes des joueurs de l'équipe de France à l'Euro.
Le bonus, Géraldine Demory.
Vice-versa 2, ça y est, ça sort aujourd'hui.
La tech, Anthony Morel.
Une solution pour désengorger les tribunaux, des juges, intelligence artificielle.
Et puis Christophe, au 32-16, il est en Gironde, il veut réagir à l'appel lancé par la CGT. La CGT qui s'engage dans la campagne en appelant à voter pour le nouveau Front Populaire. Ça fait réagir Christophe, il témoigne tout de suite. 32-16.
RMC. Charles Matin.
Charles Magnin.
À 6h moins le quart, vous êtes bien sur RMC. Bienvenue. C'est peut-être la première fois que que vous vous branchez sur RMC ce matin. Alors, je vais vous refaire les présentations. Je m'appelle Charles, enchanté. Et autour de moi, toute ma bande, Anthony Morel.
Enchanté également.
Spécialiste tech. Salut Anthony, qui va nous parler de la justice artificielle, la justice version ChatGPT dans un instant. On va parler sport en plein euro. Tiens, combien vont toucher les Bleus en cas de victoire finale? Quelle prime pour les joueurs de l'équipe de France? C'est Jordan Olivier qui a la réponse. Bonjour Jordan.
Bonjour Charles, bonjour à tous.
Mais oui, Jordan qui se présente.
Oui.
Je vous présente Géraldine de Moïm, ma partenaire tous les matins. Géraldine, tiens, qui surveille l'actu culturelle dans son bonus. On va aller au ciné parler du dessin animé Vice Versa 2, très attendu aujourd'hui. Et puis, la bande, c'est vous. À tout moment, vous venez vous installer autour de la table, au 32-16, comme Christophe qui nous appelle de Gironde ce matin. Bonjour Christophe.
Bonjour, bonjour à tous.
Salut
bonjour
Christophe. Comment ça va ce matin, Christophe?
Ça va, il pleut.
Ah,
c'est mouillé.
Alors, où êtes-vous précisément? Il faut aider Géraldine. Où est-ce qu'il pleut à cette heure-ci, Christophe?
Saint-Émilion,
il pleut.
Ça ira mieux cet après-midi.
Bah voilà, oui. De l'espoir pour cet après-midi pour vous, Christophe. Qu'est-ce que vous faites dans la vie là, pour être réveillé de si bonne heure?
Moi, je suis chauffeur. Chauffeur de poids lourd.
Chauffeur poids lourd avec oui. RMC. Bah, on est avec vous dans la cabine, évidemment, j'imagine, tous les matins. Christophe. Vous réagissez ce matin à cet appel lancé par la CGT. C'est assez rare, hein. Depuis 81, la CGT n'avait pas appelé à voter pour tel ou tel dès le premier tour. Mais hier, la CGT, par la voix de Sophie Binet, a annoncé qu'elle appelait à voter pour le nouveau Front Populaire. Est-ce que ça va trop loin? Les autres syndicats restent plus neutres, hein, dans cette campagne. Pour l'instant, Force Ouvrière, la CFDT, n'appellent pas à voter pour tel ou tel candidat. Est-ce que c'est le rôle d'un syndicat d'appeler à voter pour tel ou tel, Christophe?
Bah, le rôle du syndicat, moi, pour moi, non, pas du tout, puisque pour moi, c'est plus pour les droits des travailleurs que pour. On sait que c'est politisé à gauche ou l'AFO un peu plus à droite, mais je pense que.
Mais ça, on est d'accord, non. Christophe, personne ne tombe de sa chaise en apprenant que.
Ah non, pas
que
du
la
tout,
CGT
non,
vote
pas du
plus
tout.
À gauche qu'à droite, ça, on est d'accord.
Non, mais je pense qu'en plus,
ce serait intéressant, Christophe, d'entendre les adhérents de la CGT, je suis pas sûr qu'ils soient tous sur la ligne de la direction du syndicat. Hein.
Exactement. Je pense que c'est ça aussi. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas que des électeurs de gauche qui sont à la CGT, des électeurs de droite qui sont ailleurs ou quoi que ce soit. Mmh. Et je pense qu'en ce moment, tous ces appels, même de sportifs ou d'acteurs ou d'autres, je pense que c'est contre-productif cette fois-ci. Je pense qu'il faut se battre autre part que ça.
C'est pas leur rôle
contre-productif.
Oui,
c'est leur rôle.
Vous avez raison, il y a eu les sportifs, les artistes, la CGT, on a vu aussi le patronat, hein, faire des communiqués alors pour s'inquiéter des conséquences économiques d'un gouvernement, soit du RN, soit du nouveau Front Populaire. Est-ce que c'est le rôle des acteurs économiques, culturels, de prendre position dans une campagne, ou est-ce qu'ils doivent dire non, moi je ne dis pas pour qui je vote?
Mais ils auraient peut-être dû le faire aussi avant les européennes, du coup. Alors, si on est engagé à fond. On n'est pas engagé une fois que on arrive à la limite de.
Christophe, vous serez d'accord avec moi pour dire que cette élection législative, tout le monde s'accorde à dire qu'elle est historique, que c'est un choix décisif.
Mais bien sûr, même pour moi qui ne suis pas trop politique, j'ai voté à quasiment toutes les élections, j'ai voté Mélenchon, j'ai voté Macron, j'ai voté Hollande, mais cette fois-ci, on arrive au bord du gouffre, deux extrêmes de chaque côté. Alors pour ma part, par contre, pour moi, je capitule. Macron a gagné, je voterai pour le pouvoir en place.
C'est-à-dire, vous dites je capitule, je voterai pour Emmanuel Macron.
Ouais, je pense que oui. Pour moi, c'est un jeu qu'il fait. Je pense qu'il va peut-être gagner. Ouais.
Il va
peut-être gagner. Les gens vont peut-être avoir peur d'aller vers l'extrême gauche. On entend tout et n'importe quoi, où ils font tout et n'importe quoi, l'extrême droite, on entend tout et n'importe quoi. Je pense que ça peut être un comme au poker.
Ouais, mais alors c'est intéressant, vous dites je capitule, c'est-à-dire que c'est pas un vote de conviction, mais c'est par c'est faute de mieux, quoi. Vous résignez à voter pour le pouvoir en place, si j'entends bien.
Et puis garder ça pendant 3 ans jusqu'en 2027, je pense que ça pourra pas être.
Oui, vous renvoyez le débat à plus tard. Non, mais c'est intéressant, Christophe, de vous entendre là-dessus. Et j'entends bien que vous n'êtes pas sensible, en tout cas, aux différents appels. Ça va pas faire bouger votre vote que tel syndicat, tel sportif, telle association de grands patrons appelle à voter pour tel ou tel. Vous, Christophe, vous faites votre choix en votre âme et conscience. C'est intéressant d'entendre votre témoignage ce matin, Christophe. Bougez pas, hein, parce que on a plein d'autres infos à partager. J'ai envie de vous dire, heureusement, il n'y a pas que la politique dans la vie. Il y a aussi plein d'infos qu'on partage avec vous le matin, avec toute la bande. Et puis, déjà, justement, en ce moment, pour se changer un peu les idées, quand on en a marre des tensions autour de la politique, il y a l'euro qu'on vit aussi à fond sur RMC. Et tous les matins, on a Jordan Olivier pour nous faire vivre cet euro et toutes les histoires qui vont avec. Et alors, ce matin, attention, on va parler foot. et argent, sujet sensible, les primes qui seront versées aux Bleus en cas de victoire, Jordan.
Oui, sortez les calculettes, on va parler gros sous. Les primes des joueurs de l'équipe de France, c'est évidemment un thème qui intéresse beaucoup de monde. Alors forcément, le sujet a été évoqué hier en conférence de presse par Philippe Diallo, le président de la Fédération française de football.
Les dotations versées par l'UEFA à l'occasion de cet euro sont à l'euro près les mêmes que celle du précédent euro. Quand bien même le tournoi est beaucoup plus lucratif, si je puis dire, pour les organisateurs, malheureusement, la Fédération française n'en tirera pas un profit particulier.
Il se plaint, là, il veut plus de sous, ça. C'est la CGT.
c'est un peu ça, mais surtout, il n'est pas très bavard au moment d'évoquer quelque chose de concret. Les montants, et heureusement, à RMC, on a des journalistes qui n'abandonnent pas comme ça. Loïc Braillet, notamment, a creusé le sujet. Vous voulez connaître les chiffres ?
Ah bah oui.
Allez, c'est parti. Si les Bleus remportent la compétition, la fédération pourrait toucher un peu plus de 28 millions d'euros, somme versée par l'UEFA qui dépend notamment du nombre de matchs remportés dans le tournoi.
Alors 28 millions d'euros, ça c'est pour la Fédé, mais l'intégralité de cette somme va pas directement dans la poche des joueurs.
Non, elle transite d'abord par les caisses de la Fédé, ça c'est vrai, mais la Fédé décide de reverser 30% aux joueurs et aux membres du staff, ce qui représenterait près de 300 000 euros par personne, une sacrée somme vous allez me dire. Mais si on compare par exemple aux revenus touchés par Mbappé la saison dernière au PSG, cela ne représente que 0,4% de son salaire annuel. Alors j'entends déjà les grincheux dire ils gagnent trop d'argent, ils n'ont pas besoin de cette prime, et bien pour une fois, les grincheux ont raison. D'ailleurs, Mbappé est plutôt d'accord, Mbappé et ses coéquipiers, ils en ont conscience. Après la Coupe du Monde 2018, la star des Bleus, comme la plupart de ses partenaires, avait reversé cette prime, soit 350 000 euros à une association, une initiative qui pourrait être reconduite cette année.
Ouais, donc ils ont bien raison, bravo à eux. Au genre, rien ne les oblige à le faire, mais c'est vrai que c'est pas grand-chose par rapport à leurs revenus. Et clairement, on va pas jouer en équipe de France sous le maillot bleu pour les sous.
Pour l'argent, ça c'est vrai.
Il y a aucun intérêt financier par rapport à leur salaire annuel dans leur club. Et donc c'est très bien qu'ils fassent ce geste, mais au moins on a les chiffres. C'est en transparence.
S'ils gagnent, on est d'accord. Hein,
c'est s'ils gagnent. Ah bah oui, s'ils sont éliminés au premier tour, faut aller jusqu'au bout pour toucher environ 28 millions d'euros. Mais vous pouvez compter sur RMC pour jouer la transparence sur ces montants. Avec toi, Anthony, on va passer à la barre. est-ce que vous êtes prêt un jour à être jugé, pourquoi pas aller en prison, par la décision d'une intelligence artificielle? Un futur cauchemardesque, en tout cas, moi, ça m'inquiète. Les expérimentations qui mêlent IA et justice se multiplient et ça pose évidemment énormément de questions éthiques et morales.
Exactement, c'est déjà une réalité dans certains pays. En Chine, par exemple, le tribunal de Shanghai teste un procureur artificiel, c'est-à-dire une machine qu'on a entraînée à partir de milliers de dossiers judiciaires et qui est capable d'identifier en analysant un procès-verbal d'accusation 8 délits différents, la fraude par carte de crédit, la conduite dangereuse, les blessures intentionnelles. Il peut alors déposer plainte et décider de la peine qu'il faudrait appliquer avec un taux de fiabilité estimé à 97%. Plus proche de chez nous, en Estonie, on expérimente ça depuis 2019. Alors, ce sont des juges carrément artificiels. C'est-à-dire pour les délits mineurs, c'est pas pour les procès aux assises, mais pour les petits litiges jusqu'à 7000 euros. Donc ça peut être un conflit de voisinage, un conflit avec son patron par exemple, chaque plaignant envoie des documents et c'est une intelligence artificielle qui va analyser les documents, les mettre en relation avec les textes de loi, la jurisprudence et prendre une décision qui a décision de justice, comme la justice qui serait rendue par un juge humain. Alors l'avantage de ça, c'est ce que mettent en avant les promoteurs de cette technologie, c'est que ça permet d'alléger le travail des juges et des greffiers sur les petites affaires, on va dire, ça permet d'aller plus vite pour les ça accélère
pas.
Les choses, donc c'est pas mal. Et puis l'autre intérêt, nous disent les promoteurs de cette technologie, c'est que l'IA est soi-disant neutre. Elle prend des décisions rationnelles, froides. Elle n'est pas sensible, exactement. Alors ça, on peut en discuter.
Est-ce que c'est une qualité ou un défaut dans ce cas-là?
Ça, c'est vrai. Et puis, tu as toujours des biais humains, parce que l'IA, elle ne tombe pas du ciel. Elle est créée par des humains. Donc, les biais que tu as au départ, tu les retrouves à l'arrivée, forcément.
Mais là, c'est des exemples à l'étranger. On pourrait voir ça arriver un jour en France?
Alors, on n'en est pas là, très clairement. On a eu quand même des expérimentations. Un outil, par exemple, qui s'appelait DataJust, qui visait à l'élaboration d'un référentiel d'indemnisation des préjudices corporels. Bon, c'était un outil qui a été testé et qui a été abandonné pour l'instant. Mais on commence à voir arriver des outils qui pourront aider les juges, notamment, à gagner du temps, à scanner la jurisprudence à partir de quelques mots-clés, par exemple, pour pouvoir traiter beaucoup plus rapidement les affaires.
Je me soulage. On n'en est pas là encore en France. On n'est pas prêt d'être jugé par un robot qui n'aurait pas d'émotions. Mais justement, les émotions, on va en parler au cinéma aujourd'hui avec Géraldine. Oui, c'est ton bonus, la sortie d'un dessin animé particulièrement attendu, Vice Versa 2. De...
Oui, ça fait 2 semaines que ma fille m'en parle, ça je vais pas y échapper. Le premier volet avait conquis le public en 2016, la suite cartonne déjà aux États-Unis, meilleur démarrage de l'année au box-office. Alors on y suit une nouvelle fois des émotions personnifiées qui prennent les commandes dans la tête de la jeune héroïne Riley. Cette fois, Riley traverse la puberté et découvre plusieurs nouvelles émotions, l'anxiété, l'ennui, l'embarras ou encore envie.
Je suis anxiété, je suis ta femme numéro 1 depuis toujours. Je fais partie des nouvelles émotions de Riley.
Wow. Vous vous souvenez quand nous avons tous découvert le quartier cérébral?
Nostalgie.
C'était il y a à peine 30 secondes.
Donc c'est donc en salle à partir d'aujourd'hui. Puis comme pour le premier Vice Versa, hein, qui s'adresse aux petits comme aux grands, Pixar a fait appel à des experts en psychologie. Ce qui est sûr, c'est que moi je vais aller le voir en tout cas.
Voilà, on recommande vivement. Mais oui, au nom de la bande, je vois toutes les moues autour de la table. Oui, on recommande Vice Versa 2. Ça sort aujourd'hui au cinéma. Allez-y avec les enfants, mais ça fera aussi beaucoup de bien aux plus grands. On va remercier Christophe d'être passé par le 32-16. On va vous souhaiter bonne route, Christophe, sous la pluie, toujours à Saint-Émilion.
Non, ça s'est calmé, mais toujours autant d'éclairs.
Ah, ça s'est calmé, et puis ça ira mieux cet après-midi. Ça sera plus calme, nous promet Géraldine, bah, Christophe. On roule avec vous. Merci d'être passé rejoindre la bande ce matin au 32-16. Vous revenez quand vous voulez. Et puis vous aussi, comme Christophe, évidemment, vous composez le 32-16 pour réagir à toute l'actualité dans un instant. C'est le journal de 6h. Ça se passe à la radio sur RMC. Et c'est parti aussi sur RMC Story. Vous pouvez vous brancher sur le canal 23 de la TNT. Dans un instant, le journal de 6h avec à la une cet accident de la route hier soir près de Chartres. 7 personnes sont décédées. On sera sur place dès le début du journal. Bon réveil à tous, vous êtes bien sur RMC, il est 6h.
RMC, Charles Matin.
Toute l'info, toute l'actu en direct, votre journal présenté par Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Charles, bonjour à tous. Ce drame épouvantable en Eure-et-Loir, 7 morts dans un accident de la route près de Chartres, 5 jeunes âgés de 17 à 19 ans et un couple d'octogénaires. RMC est en direct sur place ce matin. Je n'ai pas fait ça à la légère. Voilà ce qu'assure Emmanuel Macron qui se justifie à nouveau sur la dissolution de l'Assemblée nationale et qui attaque le RN et la gauche sur le coup de leur projet.
Et puis tiens, faire baisser drastiquement les prix à la pompe. Promesse du RN et du nouveau Front Populaire. Est-ce que cette promesse est réaliste? Combien les automobilistes pourraient-ils économiser? On appelle le représentant des stations-service juste après le journal.
Et puis Kylian Mbappé va devoir se faire opérer du nez après l'Euro. En attendant, il est incertain. Ça y est, c'est confirmé pour le deuxième match des Bleus vendredi contre les Pays-Bas.
Dramatique accident de la route hier soir sur une route départementale d'Eure-et-Loir.
Oui, 7 personnes sont mortes dans cet accident près de Chartres sur la commune de Bayeux-le-Pin. C'est là qu'on vous retrouve Nicolas Traîneau en direct ce matin pour RMC. Nicolas, les circonstances de l'accident sont abominables.
On essaye de joindre Nicolas Traîneau depuis l'Eure-et-Loir où cet accident, on va rappeler le bilan, a fait 7 morts hier soir sur cette route départementale de l'Eure-et-Loir.
Alors les dernières précisions, tiens, on va les écouter avec le service police-justice à RMC avec Lucille Pascanet.
Oui, selon les premiers éléments de l'enquête, 5 personnes, des jeunes gens entre 17 et 19 ans, roulaient hier soir sur une départementale près de Bayeux-le-Pin quand le conducteur aurait perdu le contrôle de sa voiture. Selon un témoin direct, sa vitesse était trop élevée, nous indiquait hier le procureur de Chartres, Frédéric Chevalier. Voilà pourquoi cette voiture aurait dévié de sa trajectoire et percuté de plein fouet un autre véhicule, une C4 qui arrivait en face. À l'intérieur, 2 octogénaires, un homme et son épouse, sont tués par le choc. La première voiture fait ensuite un tonneau et en percute une troisième, blessant 2 personnes, dont une gravement, avant de s'enflammer. Les 5 passagers de ce premier véhicule sont tous décédés. Une enquête a été ouverte pour homicide et blessure involontaire pour déterminer les causes de l'accident avec précision, expliquait hier le procureur. Les autopsies des victimes devraient avoir lieu dans les prochains jours.
Il est 6h02 sur RMC. Les syndicats ont donc décidé de s'engager dans la campagne des législatives. La CGT appelant donc à voter pour le nouveau Front Populaire, les 30 juin et 7 juillet prochains. C'est la première fois depuis 81 que la CGT appelle à soutenir directement un camp. Et les enseignants de la FSU feront normalement la même chose en fin de journée. Emmanuel Macron, lui, comme je vous le disais, justifie la dissolution. En déplacement hier en Bretagne, sur l'île de Saint-Romain Cluzel, c'est une habitante qui lui a demandé des comptes.
En pleine déambulation, alors qu'il serre la main d'une habitante.
Comment avez-vous pu nous mettre dans cette situation?
Mais je devais faire ça.
C'est impossible, ça va être le chaos.
Non.
Vous savez bien.
Mais madame.
Commence une longue séance d'explications pour le président.
Je suis le premier à qui ça a fait mal le 9 juin, les résultats. Je l'ai pris vraiment pour moi. Ça m'a fait mal. Et donc, en mon âme et conscience, c'est une des décisions les plus lourdes que j'ai eu à prendre, madame. Je pense qu'il y a une majorité silencieuse qui, comme vous, ne veut pas les extrêmes. Et qui, comme vous, ne veut pas que ce soit le désordre.
Emmanuel Macron l'assure, cette dissolution permet de clarifier les intentions de chacun et le chef de l'État en profite pour attaquer les programmes de ses concurrents.
Le Rassemblement National et ses associés, ils proposent des choses qui peut-être font plaisir aux gens. Enfin, c'est 100 milliards par an. Ils proposent de nationaliser les autoroutes, de revenir sur la réforme des retraites. Et puis de l'autre côté, à l'extrême gauche, c'est 4 fois pire en termes de coûts. Et puis, il n'y a plus de laïcité. Ils reviennent sur les lois d'immigration qu'on a faites.
Si les Français nous refont confiance, ça ne pourra plus être comme avant, promet Emmanuel Macron, qui devrait conserver Gabriel Attal comme Premier ministre si son camp l'emporte.
Pour pouvoir diriger le pays, il faut une majorité absolue à l'Assemblée. Ça, c'est ce qu'a répété le RN Jordan Bardella hier soir aux 20h de France 2, ce qu'il avait déjà dit dans le journal Le Parisien. Est-ce que le Premier ministre Gabriel Attal qualifie de refus d'obstacle? Et pour écouter pourquoi Jordan Bardella insiste.
Si vous voulez que j'agisse, il me faut une majorité absolue.
Et sinon, c'est ça le sujet, la question que pose cette déclaration.
Je vais vous dire, en toute honnêteté, je fais pas de la politique pour ma gloriole personnelle. Si demain je suis en capacité d'être nommé à Matignon et que je n'ai pas de majorité absolue parce que les Français ne m'ont pas donné de majorité absolue, je refuserai d'être nommé. Je veux le pouvoir pour agir. Et pour gouverner, je dis aux Français, j'ai besoin que vous fassiez le choix de l'alternance.
Et concernant l'idée de priorité nationale dans l'attribution des logements sociaux, le parquet de Nanterre a requis jusqu'à 6 mois de prison avec sursis contre 3 membres ou ex-membres du RN, dont le maire d'Hénin Beaunon, Steve Briouat, pour complicité de provocation à la discrimination. Cette idée-là de priorité nationale qui nécessite de changer la Constitution, ce n'est plus une priorité, ce n'est plus dans le programme du RN pour ces législatives, mais ça inquiète tout de même certains patrons dans les domaines de la restauration ou du bâtiment, notamment Marion Gauthier, un des secteurs qui ne peuvent pas fonctionner sans main-d'œuvre étrangère.
Ils sont indispensables, répète Laurent Fréchet du groupement des hôtelleries et restaurations. Alors imaginez une préférence nationale qui compliquerait l'embauche de travailleurs étrangers.
C'est inquiétant, c'est même effrayant. Je rappelle les chiffres, un petit peu plus de 380 000 emplois vacants dans nos métiers. Il s'agirait plutôt de réduire la fracture que d'augmenter cette fracture.
Il faut récompenser le travail alors que certains secteurs attirent peu, lance Stéphane Coffin, électricien et vice-président de la Fédération du bâtiment de l'Oise.
On a aussi beaucoup dévalorisé nos métiers pendant des années. Aujourd'hui, on se retrouve avec une certaine pénurie.
Ce que décrit aussi la Fédération des services à la personne. Sur certains territoires, 60% des recrutés ont des titres de séjour, estime son directeur. Les travailleurs étrangers, ce sont 2/3 de la production de fruits et légumes, jauge quant à lui Raymond Girardi. Il est vice-président du MODEF, le syndicat des petits et moyens paysans.
Il y a des agriculteurs aujourd'hui qui ont réduit leur surface par manque de main-d'œuvre. Prêcher aujourd'hui la préférence nationale pour les métiers de l'agriculture, c'est faire une croît sur la production nationale.
Il faut encore faciliter leur recrutement, ajoute l'agriculteur, pour qu'ils travaillent dans de bonnes conditions.
Une trentaine de maisons touchées, c'est le bilan de la tornade qui a balayé hier en début de soirée le village de Carlepont. C'est dans l'Oise, il n'y a pas de blessés, disent les pompiers. Les orages qui ont été particulièrement violents ces dernières heures, Gironde, Charente-Maritime notamment, il est tombé 50 mm de pluie en moins d'une demi-heure à Bordeaux, et équivalent de tout un mois de juin en seulement 2 heures sur la commune de Matha. Des nouvelles ce matin de Kylian Mbappé, qui s'est fracturé le nez avant-hier lors du match des Bleus à l'Euro. Les médecins lui ont remis le nez dans le vestiaire, selon les informations de RMC Sport. Il est incertain pour le match de vendredi contre les Pays-Bas. Et pour la suite, eh bien, on verra. Il y aura sûrement une opération, c'est ce que disait hier le sélectionneur Didier Deschamps.
Il y aura encore des examens pour faire en sorte de voir comment ça évolue. Évidemment, le choc a été important. Le staff médical a fait ce qu'il fallait pour réduire au maximum. Après les examens, évidemment, même si ça ne sera pas dans l'immédiat une intervention chirurgicale, il devra la faire. Mais bon, déjà ce matin, il était un peu mieux. Donc on va voir ça, on va suivre de près chaque jour.
Les résultats de la soirée, le Portugal qui a eu chaud, très très chaud même hier soir, en s'imposant 2-1 contre la République tchèque. Il a fallu un but à la 92e minute dans les arrêts de jeu, donc grâce à l'apport du banc de touche. Et puis en début de soirée, la Turquie a battu la Géorgie 3-1, match très joli avec un but magnifique, pleine lucarne du jeune Arda Güler, joueur du Real Madrid.
Le Messi turc.
Oui, on peut l'appeler comme ça. Non, mais c'est peut-être déjà le but de la compète. Hein.
Ah, peut-être, oui, c'est vrai. Magnifique but. Bon, bah, 7 euros, on continue à le vivre, évidemment, tous ensemble. On prend des nouvelles de Kylian Mbappé, mais aussi tous les matchs à suivre sur RMC et sur la radio digitale. La radio 100% euros sur l'appli RMC pour ne rien manquer. 24/24 à 6h08. On retrouve Quentin tout à l'heure à 7h pour un prochain journal. 6h08, c'est aussi l'événement tous les matins sur RMC, l'installation de Manu Le Chypre dans ce studio. Salut, Manu.
Salut.
Salut Charles.
Hier, dans ma... hier, alors, de bonne humeur.
La façon dont tu présentes les choses, c'est comme s'il y avait une espèce de grue là, qui venait tous les matins.
Une grue ?
Il y a les grands chantiers.
Ah oui, ah, bah, oui, c'est l'événement. Ouais. C'est l'équivalent des travaux des JO. Ah, c'est ça, on installe Manu. Hier, dans la rue, un auditeur que je salue, un téléspectateur m'a salué. Il m'a parlé uniquement des cravates de Manu Le Chypre. Je lui ai dit, j'y suis pour rien, mais il m'a dit que ça lui plaisait beaucoup.
Je ne le décevrai pas aujourd'hui.
Voilà, bah, chaque jour est une nouvelle surprise avec Manu Le Chypre, tiens, qui va nous emmener au resto tout à l'heure à 6h20. J'en dis pas plus, mais oui, ce sera très intéressant dans Manu Conso tout à l'heure. Mais tout de suite, à 6h09, on joue.
RMC, Charles Matin, êtes-vous bien réveillé ?
Eh oui, tous les matins, vous qui vous levez tôt avec RMC, vous remportez des cadeaux si vous avez la bonne réponse à notre question d'actu.
Quel syndicat a appelé au vote pour le nouveau Front Populaire hier ?
Ah, la réponse, vous l'avez si vous avez bien écouté le journal de Quentin. À l'instant, on
un
en débat.
Un petit indice hein,
depuis 5 heures. Oui, un indice sur votre écran. Et si vous avez la bonne réponse, vous envoyez actu par SMS au 732-16.
Et un très joli radio réveil de la marque Muse à gagner pour vous réveiller tous les matins avec RMC.
Soyez rapide, le gagnant, la gagnante avec nous. Dans une dizaine de minutes en direct. Soyez rapide, actu par SMS 732-16.
75 centimes par SMS, 3 SMS maxi.
À suivre dans Charles Matin sur RMC.
Faire baisser drastiquement, durablement les prix à la pompe. C'est la promesse phare du RN et du nouveau Front Populaire. Mais comment comptent-ils s'y prendre ? Pourront-ils vraiment le faire ? Et puis, de combien les prix baisseraient pour les automobilistes ? On va appeler tout de suite Francis Pousse, le patron du syndicat des stations-service. Il décrypte les programmes pour nous. C'est tout de suite sur RMC.
RMC, jusqu'à 6h30. Charles Matin.
Charles Magnin.
6h13, bon réveil sur RMC.
L'invité de Charles Matin.
Notre invité, on le connaît bien, c'est Francis Pousse. Bonjour Francis Pousse.
Bonjour.
Président du syndicat Mobilience, qui représente une grande partie des stations-service du pays. Alors, c'est assez inédit, Francis Pousse, qu'on vous appelle en pleine campagne électorale, mais il faut dire que les prix des carburants sont au cœur de cette campagne. Les partis commencent à dévoiler leurs mesures, notamment pour faire baisser durablement les prix à la pompe. Alors, Francis Pousse, on va avoir besoin de vous pour décrypter ces promesses. On va commencer par le Rassemblement National, qui annonce, en cas de majorité RN, si Jordan Bardella est à Matignon, de baisser la TVA sur les carburants, qui est aujourd'hui à 20%, de la baisser à seulement 5,5%. Est-ce que c'est réaliste ? Est-ce que c'est faisable ? Et surtout, combien économise l'automobiliste dans ce cas-là ?
Bah, sur une taxation à 5,5 au lieu de 20, par rapport au prix d'aujourd'hui, effectivement, vous gagnez entre 15 et 20 centimes à la pompe. Ce qui fait d'autant moins dans le budget de l'État, puisque cette baisse de TVA est estimée, pour un coût de l'État, 9 milliards et demi d'euros qu'il faudra bien compenser de l'autre côté.
Donc c'est 10 milliards en moins pour les caisses de l'État, mais 20 centimes pour l'automobiliste. Est-ce que ça se fait d'un claquement de doigts ? Est-ce que Jordan Bardella peut d'un simple décret dès son arrivée à Matignon ? Parce que je disais qu'il fallait passer par Bruxelles. On fait pas ce qu'on veut en fait sur les TVA, sur les carburants.
Alors effectivement, il y a des taux de TVA qui sont encadrés. L'Europe ne prévoit pas de taux réduits pour les carburants. Ça c'est une première chose. Deuxième chose, en France, il faut passer impérativement par un PLFR, c'est-à-dire une modification du budget, un projet de loi de finances rectificatif. On en a entendu parler un peu ces derniers mois. Et ça doit se faire évidemment par l'Assemblée, donc il faut qu'elle soit installée, l'Assemblée. Et ensuite, il y a l'effet des navettes parlementaires. Est-ce que tout le monde sera d'accord ? Ça, on ne le sait pas.
Donc ça prendrait quelques semaines, voire quelques mois, mais c'est pas impossible à faire. Ça coûterait cher, ça j'ai bien compris, 10 milliards d'euros à l'État, mais ça fait quand même une baisse de 20 centimes à la pompe pour l'automobiliste. Alors, autre solution, cette fois à gauche, le nouveau Front Populaire, qui voudrait bloquer les prix des carburants. Alors là aussi, c'est pas très clair, les bloquer, mais à quel prix ?
Alors, les bloquer, je vois ça, excusez-moi, mais pas possible. Dans la mesure où votre produit de base, qui est le pétrole, lui, il continue à évoluer dans un sens ou dans un autre, d'ailleurs. Après, à quel prix on bloque ? Ça, il n'y a pas de réponse. Ce que je penserais plus, c'est qu'on parlerait d'un prix administré, c'est-à-dire ce qu'on avait jusque dans les années 80, ce qu'on a aussi en Guadeloupe, par exemple, où chaque semaine, chaque 15 jours, chaque mois, en fonction de l'évolution du prix du baril, le prix augmente ou baisse de la même façon dans toutes les stations. Ça, c'est ce qu'on appelle un prix administré. Mais ça, il faut que ça se mette en place. Il faut garantir le revenu, par exemple, de mes stations-service. Et ça prendrait, à mon avis, quelques temps.
Oui, alors là aussi ça prendra du temps, c'est pas non plus impossible, mais il n'y a pas de chiffrage précis, c'est ça, hein. Le nouveau fonds populaire dit pas on bloquerait à 1,60, 1,70, 1,50, il n'y a pas de promesses chiffrées. Là aussi vous pointez la complexité, en tout cas ça prendrait du temps s'il fallait le mettre en place. Et puis il reste le bloc central, le gouvernement actuel, la majorité actuelle qui jusqu'à présent a plutôt privilégié les ristournes, les chèques, ça n'a pas toujours été un grand succès. Hein.
Non, effectivement, on se souvient du dernier chèque essence, on va l'appeler comme ça, dont tout le monde n'avait pas profité, dans le sens où tout le monde n'était pas allé le chercher. Il avait été budgété 1 milliard, 600 millions avaient été dépensés. Et effectivement, c'est pour une frange de la population, ceux qui en ont le plus besoin, en l'occurrence.
Manu Le Chypre a une question, Francis Pousse.
Oui, alors, Francis, sachant que quand on regarde un peu les prévisions de l'Agence internationale de l'énergie ou des experts du secteur, ils disent « Ah, mais on risque plutôt d'avoir trop de pétrole que pas assez dans les années qui viennent. » Et il y en a beaucoup qui prévoient une baisse des prix du pétrole. Et donc, on se dit finalement, on va revenir à des prix de l'essence qui étaient ceux qu'on avait avant Covid, qui gênaient personne, et on risque de dépenser beaucoup d'argent public pour rien, en fait.
Effectivement. Alors les prévisions de long terme, moi je me refuse toujours à en faire, mais effectivement c'est ce que dit l'AIE. Ensuite, trop de pétrole, sauf si les pays producteurs réduisent encore le robinet, ce qui mécaniquement maintiendra des cours. Mais effectivement, on n'est pas a priori dans une dynamique d'évolution importante des prix, quoi.
Parce que les prix ont baissé là, hein, ces dernières semaines, il faut le dire. Ce matin, on est, j'ai regardé sur les sites officiels, en gros le sans-plomb 95 à 1,84€, 1,68€ pour le gazole. Francis Pousse, là on a des prix assez bas, on n'est pas encore revenu à des prix d'avant Covid, comme disait Manu Le Chypre. Est-ce que là les Français s'apprêtent surtout à partir en vacances, hein, au mois de juillet, au mois d'août? Est-ce que ces prix bas vont se maintenir au moins cet été?
Tous les indicateurs à aujourd'hui nous montrent qu'on va plutôt rester dans une fourchette de 80-90. Ce matin, on est à 82-83, c'est-à-dire qu'on a remonté un petit peu par rapport à la semaine dernière. Mais c'est vrai qu'à court terme, on ne voit pas de raison que ça augmente drastiquement.
Tu parles du pétrole sur les marchés, Francis, hein.
Ah oui, il faut nous traduire, voilà. À la pompe, toi, Francis. Mais oui, j'entends que c'est le baril, alors, c'est ça, qui est assez bas, qui est à peine au-dessus de $80 le baril, si je comprends bien.
Exactement, sachant que le prix, vous le savez bien, est corrélé, le prix de l'essence ou du gasoil est corrélé au prix du baril. Après, on a un petit souci, c'est que notre euro est légèrement en baisse, et comme on achète en dollars, ça nous coûte un peu plus cher. Mais voilà, l'évolution, elle est plutôt stable depuis quelques semaines, espérons que ça reste comme ça.
Espérons que ça reste comme ça, en effet. En attendant de voir les différents programmes politiques appliqués ou pas selon les résultats politiques. Mais en attendant, voilà, du concret pour les jours et les semaines qui viennent avec vous. Francis Pousse, merci de nous avoir aidé à décrypter les promesses de campagne des différents camps sur cette question essentielle dans cette campagne des carburants et donc du pouvoir d'achat. Merci encore une fois d'avoir été en direct avec nous ce matin sur RMC. Francis Pousse, je le rappelle, président du syndicat Mobilience, hein, qui représente une grande partie des stations-service du pays. Il est 6h20.
RMC jusqu'à 6h30. Charles Matin.
Charles Magnin.
Et à 6h21, c'est Manu Resto.
RMC, Manu Conso.
Emmanuel Le Chypre, il n'y a pas que les restaurants des grandes chaînes qui marchent bien en France.
Oui, absolument. C'est une étude inédite de Food Service Vision publiée hier qui nous le montre. Alors, ils font le match à chaque fois par type de restaurant, c'est-à-dire resto traditionnel, mais aussi restauration rapide, le match entre les restos indépendants et les restos des grandes chaînes. Mmh. Et on s'aperçoit que pour ce qui concerne les restaurants traditionnels, eh bien finalement, ils pèsent encore très largement plus lourd que la restauration de grandes chaînes, puisque par exemple, il y a 117 000 restaurants indépendants en France, 15 000 de restaurants de grandes chaînes, donc c'est quasiment 10 fois plus, sachant que presque la moitié sont concentrés dans les régions Île-de-France.
Faut qu'on précise qu'est-ce qu'on entend par resto de grandes chaînes.
Ce qu'on appelle les restaurants traditionnels de grandes chaînes, c'est Buffalo Grill, Au Bureau, La Boucherie, pas les McDo et les Burger King qui sont dans la catégorie restaurants rapides. Mais ces restos là, ils marchent bien, mais les indépendants marchent très bien. Songez par exemple que la restauration gastronomique a fait plus 9% de chiffre d'affaires l'an dernier, plus 14% pour les brasseries, donc vous voyez qu'on est bien au-delà de l'effet mécanique d'une hausse du chiffre d'affaires liée à l'inflation, et en plus on constate qu'il y a plus d'ouvertures que de fermetures de ce type d'établissement. Et puis l'autre conclusion de l'étude qui est importante pour les consommateurs, c'est qu'une écrasante majorité quand même des restaurateurs indépendants, 9 sur 10, proposent très majoritairement du fait maison.
Et ça, c'est très important, on se bat pour. Et puis alors, il résiste bien, oui, mais la restauration rapide continue quand même à cartonner.
Hein, oui, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que dans la restauration rapide, il y a aussi des indépendants hein, qui réussissent bien, et c'est pas que Burger King, McDo...
C'est pas que des chaînes, quoi.
C'est pas que des
grandes chaînes. Il y a des petits burgers indépendants, pour
le dire. Il y a des petits burgers indépendants, et puis alors surtout, franchement, oui, ce qui marche très bien, c'est la cuisine asiatique, hein, plus 16%, les petites enseignes indépendantes asiatiques, qui marche très très bien. Et les tacos kebab indépendants progressent eux aussi assez bien.
En fait, donc, tout le monde progresse là, c'est l'école des fans.
Alors non, parce que il y a vraiment des dans les vieux restos tradis qui sont pas dans des régions faciles où il y a du tourisme, etc., qui ont des difficultés. Mais grosso modo, retenez que le resto, enfin, on n'est pas obligé d'être un resto d'une grande chaîne pour réussir en France dans la restauration.
6h23 sur RMC, c'est l'heure de jouer.
RMC, Charles Matin, êtes-vous bien réveillé ?
Avec Christophe qui a été tiré au sort depuis Bordeaux. Bonjour Christophe.
Bonjour.
Ça va ce matin Christophe ?
Oui, ça va, merci.
Vous êtes levé tôt pour le boulot ?
Exactement, exactement.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie ?
Je suis traiteur pour les entreprises.
Ah, bah voilà, ça va plaire à Manu, voilà, un traiteur.
Quel beau métier.
Exactement, très beau métier, Christophe. Levé tôt, et bah pour nous nourrir, quelque part. Et Christophe, vous allez sûrement gagner, mais attention, il faut d'abord répondre à notre question d'actu.
Quel syndicat a appelé au vote pour le nouveau Front Populaire hier ?
Et c'est la CGT.
Eh oui, c'est gagné. Pour vous, Christophe, vous avez la bonne réponse. C'était une info RMC. Vous a révélé hier après-midi la CGT qui appelle à voter pour le nouveau Front Populaire. Ça vous permet, Christophe, de remporter
votre radio réveil de la marque Muse. Voilà, très joli réveil pour vous réveiller tous les matins avec RMC.
Voilà, Christophe.
Je vous remercie.
Et puis,
merci,
on va y ajouter la coque pour smartphone RMC, ah, sauf oui. Si vous l'avez déjà, Christophe, je sais pas.
Non, je ne l'ai pas, c'est super sympa. Merci.
Et ben, elle part aussi à Bordeaux pour vous sur le téléphone. Voilà, vous pourrez afficher fièrement vos couleurs RMC, Christophe. On vous félicite. Et puis, on vous souhaite, bon courage pour la journée de boulot, Christophe.
Merci infiniment. Bonne journée à vous aussi.
À très vite, Christophe, au 32-16. Vous aussi, hein, vous tentez votre chance. Le Radio Réveil revient demain. Mais oui, vous vous levez tôt avec RMC. On adore vous récompenser. Et puis la récompense, le cadeau, il est pour tout le monde dans un instant à 6h25, puisque c'est Apolline Matin. Apolline qui s'installe dans un instant. C'est parti pour toute l'actu sur RMC.
RMC, Apolline Matin.